L'écrivain d'origine jamaïcaine Claude Mackay, auteur du roman Banjo, est à l'honneur ce samedi à l'Alcazar. À partir de 16h30, une projection d'un film inédit en France, Big Fella, de la musique et une conférence. Une manifestation en amont du projet Claude Mackay 2008, dont Armando Cox est directeur.
Claude Mackay, c'est un poète et écrivain. D'abord, il était connu comme un poète. Il est américain, mais en tout cas d'origine jamaïcaine. Il est né en Jamaïque, il est arrivé aux États-Unis quand il a 19 ans. Et ensuite, il s'est installé plus particulièrement à New York, dans les quartiers d'Harlem, où il a vécu pratiquement jusqu'à ce qu'il quitte les États-Unis pour voyager pendant 10 ans en Europe. Et il voyage, pourquoi il voyage en fait? Bon, c'est vrai qu'on est dans un contexte des années 20, et pour les Noirs américains surtout, c'est que la France, c'est le symbole vraiment de la liberté. On est en pleine période de la ségrégation raciale aux États-Unis. Quand ils venaient en France, pour eux, c'était vraiment le moment de liberté. Donc, il y a déjà d'autres écrivains qui sont déjà en Europe, comme Canticulène, qui était aussi ami de Claude Mackay. Il y a d'autres écrivains comme Richard Wright, qui vont venir aussi plus tard pour poursuivre un petit peu cette démarche des Américains. Et je ne parle pas seulement des Noirs, même pour les Blancs. On sort dans une Amérique qui est puritaine. Pour les Noirs, ça s'ajoute la ségrégation et la France symbolisait aussi la liberté. Donc voilà, c'est l'objectif de ces voyages et de ces pérégrinations, en tout cas de moi lui-même, c'est quand même un vagabond.
Et donc il arrive quasiment directement à Marseille? Comment ça se passe? Ou c'est une des étapes après bien d'autres où il découvre l'Europe quand il arrive à Marseille?
Il arrive à Marseille beaucoup plus tard, en fait. D'abord, il s'installe à Londres, où il travaille dans un journal de gauche, les libéraux à l'époque, comme on l'appelait. À l'époque, c'est les libéraux, c'est plutôt les communistes. Et ensuite, il voyage en Union soviétique, où il participe dans le troisième international. Il passe 6 mois quand même en Russie, où il est accueilli d'une façon formidable. Il le décrit lui-même dans sa biographie. Et de là, il passe par la Ruhr, qui est encore occupée. Il traverse l'Allemagne, il revient en France. Et en France, il fait quand même des allers-retours entre le Maroc, l'Espagne et finalement Marseille. Il arrive à Marseille pour des raisons, disons, de santé, parce qu'il était malade. Il travaillait pas mal aussi comme modèle de peintre, de sculpteur à Paris, à Montparnasse. Et comme très souvent, leurs ateliers n'étaient pas chauffés, donc finalement, il était très malade. Et des amis l'ont conseillé de venir passer 3 mois dans le sud de la France, au soleil. Il arrive d'abord à La Ciotat, ensuite, il quitte La Ciotat, il va s'installer à Toulon. Et de Toulon, il vient s'installer pratiquement à Marseille. Je ne pourrais pas te dire combien de temps il reste à Marseille, mais en tout cas, il fait quand même des va-et-vient entre Paris et Marseille.
Et donc là, on est en quelle année?
On est en 1926. Et il débarque à Marseille. Il est conseillé par un peintre qui est Pasquin ou Passin, qui était un ami de Claude Mackay, qui les conseille de venir à Marseille. Et curieusement, d'ailleurs, il propose de rencontrer un de ses amis qui était un peu l'équivalent de Mémé Guérini de l'époque, qui l'accueille, mais ensuite il décrit le personnage qui était un personnage un peu fréquentable. Mais finalement, voilà, c'est la personne qui l'accueille dans la fosse, dans ce quartier qu'on appelle la fosse, qui va, disons, c'est le quartier qui entourait plus ou moins les ports de Marseille, Belzance, un peu le Panier et tout ça.
C'est le quartier qui a été détruit en 1943 par un dynamitage des nazis, avec la caution des autorités locales.
Oui, oui, bah, des autorités locales, peut-être. En tout cas, d'après ce qu'est un des spécialistes raconte, c'est que les maisons ont été, enfin, ces quartiers ont été détruits avec le concours, en tout cas, de la bourgeoisie marseillaise qui avait toujours voulu faire raser ces quartiers. Effectivement, les quartiers ont été dynamités maison par maison en 1943, donc ces quartiers n'existaient plus. Et même dans les récits de son livre Banjo qu'il a écrit ici à Marseille, c'est un des rares livres qui raconte, disons, la vie de ces quartiers et les rues, certaines rues n'existent plus. Mais voilà, donc c'est un quartier, la majorité de ce qu'il décrit de ces quartiers n'existe pratiquement plus aujourd'hui.
Oui, donc lui, il vit dans ce quartier de la Fosse, au pied du Panier, on peut dire. Et donc son livre le plus connu, c'est donc Banjo, qui se passe dans ce quartier. Il l'a écrit sur place ?
Il a écrit sur place. D'ailleurs, curieusement, c'est un Sénégalais qui le pousse à écrire ses livres, en fait. C'est un Sénégalais qui a fait fortune aux États-Unis, qui ouvre les premiers bars black, comme on pourrait dire comme ça, les premiers bars black sur le Vieux-Port. Et c'est là que la communauté noire allait se rencontrer finalement. Donc, d'ailleurs, Banjo, c'est lui, hein, on peut bien l'imaginer. Voilà, donc ce Sénégalais qui le conseille d'écrire ses livres en disant, voilà, à Paris, on a écrit déjà un livre sur le noir qui habite à Paris, ici dans le sud, jamais on a parlé de nous, donc pourquoi pas, toi tu es l'intellectuel du groupe, pourquoi ne pas écrire un livre? Donc il s'est mis, du coup, à écrire, mais en tout cas, il y a déjà un écho de son premier livre qui a fait beaucoup de bruit en 1928, qui s'appelle Back to Harlem, donc Retour à Harlem, qui décrit la vie des gens d'Harlem. Hein. C'était la première fois qu'un écrivain s'intéressait à ces quartiers, aux gens du quartier. D'ailleurs, le livre n'a pas été très bien accueilli par les intellectuels noirs américains. D'abord, qui disaient, mais c'est qui ce Jamaïcain, un immigré jamaïcain qui vient se parler de nous de cette manière-là. William Du Bois qui dit, ben, finalement, quand j'ai lu ces livres, j'avais tout de suite l'envie d'aller me baigner. Voilà, donc, en fait, c'est un regard qu'il porte sur les bas-fonds d'un quartier et sur les quartiers, en tout cas, les blancs aux États-Unis ne s'intéressaient pas trop d'écrire la vie d'Harlem, d'une façon aussi avec sa prose, en tout cas. Et voilà, c'est un peu l'écho de ce livre aussi, et qui décrit ces petits Harlem, qu'on peut l'appeler comme ça, d'ailleurs lui-même l'appelait la fosse, les petits Harlem. Donc voilà, il y a presque un regard croisé.
Alors là, effectivement, il décrit aussi les bas-fonds des rencontres. Alors c'est un univers de marins.
C'est l'univers des marins, c'est l'univers des dockers, c'est l'univers de tous ces marins du monde entier qui rêvaient de passer à Marseille. Et ça, c'est la vérité. Et puis, il y a pas mal de marins ouest-africains qui sont là, dont certains ils venaient plutôt de se faire réformer de tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, même si tous ne venaient pas du Sénégal, même au-delà, Madagascar aussi. Et ces gens démobilisés, ils se retrouvaient aussi dans ce quartier. Il y a aussi beaucoup de ressortissants italiens aussi, hein, qui fuyaient la dictature en Italie, et beaucoup de Corses aussi dans le même quartier. Voilà, c'est un quartier quand même un peu cosmopolite. Et du coup, pour Mackay, c'était vraiment les rêves, en disant le monde de demain, ça serait comme ces quartiers, comme Marseille. C'est pour cela qu'il a beaucoup aimé Marseille, alors que beaucoup d'intellectuels américains, d'artistes américains allaient surtout à la Riviera à Marseille, ne les intéressaient pas. Donc, lui, il fait partie de ces Américains qui ont choisi vraiment Marseille. Bon, il y en aura d'autres comme Varian Fry, mais en tout cas, c'est pendant la Seconde Guerre, dans d'autres contextes. Et voilà, donc Mackay, lui, il s'intéresse vraiment à Marseille parce que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup aimé cette ville, en fait.
Il décrit ce Marseille de la fin des années 20, une page d'histoire dont on a très peu d'écho en fait aujourd'hui, surtout que le quartier a été rasé, une page un peu inconnue de l'histoire marseillaise, surtout de ce quartier. Et en même temps, Mackay décrit les rapports sociaux au temps des grands empires coloniaux, il décrit ça avec une clairvoyance assez impressionnante.
Justement, c'est vraiment, je pense que Mackay, il est vraiment visionnaire parce que si aujourd'hui on a des associations qui malheureusement aujourd'hui essaient de créer des mouvements de défense de noirs, je sais pas. Alors bon, voilà, il faut savoir aussi de quel noir parle-t-on, parce que justement Mackay démontre que entre eux, le noir dans ce quartier ne s'entendait pas du tout. Il y avait des racismes entre noirs et en dehors des problèmes déjà des conflits coloniaux, hein, qui commencent à émerger. Et les Sénégalais qui les poussent à écrire Banjo lui-même aussi, il était déjà un peu investi par des idées de l'indépendance en Afrique et tout ça. Donc voilà, Mackay, il est confronté aussi au problème avec des clandestins, des immigrés, avec les violences de la police. C'est quelqu'un, en fait, qui réfléchit vraiment en tant que citoyen d'une ville. J'ai l'impression que c'est la personne qui démontre pour moi vraiment la vraie citoyenneté. C'est pas forcément d'être citoyen français, disons, avec mon passeport français, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là, qui observe et qui s'investit dans le débat de la société. Et c'est sa manière aussi de participer dans une espèce de citoyenneté, voilà, une citoyenneté dans une ville, participer au conflit de son époque et tout ça. Voilà, pour moi, vraiment, c'était modèle. Et en même temps, visionnaire, parce que justement, aujourd'hui, on se pose encore des questions que lui, il a très, très bien vues, même, et lui, il l'a déjà... Il reste très clairvoyant. C'est quelqu'un qui n'est pas capturable dans un mouvement et chaque fois dans les marges. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que ses amis de la Renaissance d'Harlem, ces mouvements culturels, artistiques, dans lesquels beaucoup de gens ont participé, même les musiciens, l'ont reproché aussi du fait qu'il ne s'engage pas vraiment totalement. Mais lui, c'est quelqu'un de la marge. Son engagement, c'est ça aussi. C'est un artiste. Claude Maquet, il a eu la reconnaissance en tant que poète. On disait que c'était le plus grand poète américain après Dunbar. Donc c'est quand même une reconnaissance incroyable, comme le poète comme Bernard Shaw, qui était son ami, les respectait, les gens comme Sandrard, Macorlan, ont écrit quelques pages sur Maquet avec beaucoup d'admiration. Banjo a déjà été édité, hein, il y a une édition, la première personne en tout cas qui réédite quelques fragments, c'est Jean Ballard, donc dans le Cahier du Sud, 1937, il publie quelques passages de Banjo, et ensuite il y a eu une première traduction française, et le livre a été oublié jusqu'à ce qu'en tout cas André Dimanche, un éditeur marseillais, puisse le rééditer. Justement, je dois dire en tout cas tout mon respect pour André Dimanche d'avoir réveillé Banjo, réveillé Maquet, et pour redécouvrir vraiment l'histoire de Marseille qui est en effet oubliée.
Oublié, passé, et en même temps, c'est criant d'actualité, un peu comme tu disais tout à l'heure.
Oui, oublié, justement, je pense que si les projets aussi Maquet, ces projets, a aussi pour objectif de reposer ces questions-là, d'avoir des moments de discussion, il y aura aussi beaucoup de réflexions avec des conférences qui vont être réalisées. C'est pour reposer des questions aujourd'hui, sur la question de la citoyenneté, sur la question d'être ensemble, sur la question des racismes, la présence de ce qu'on appelle communauté moins visible, alors qu'on est bien visible, surtout quand on est noir, dans une société blanche. Donc voilà, ça c'est des questions qu'il faut poser, et peut-être que Maquet nous aide aussi à nous positionner, à réfléchir, c'est le vivre ensemble aujourd'hui.
Et Maquet a inspiré des artistes, des cinéastes, des musiciens et des penseurs, les tenants du panafricanisme et de la négritude en particulier.
C'est vrai, d'abord c'est Senghor qui écrit qu'en fait, pour lui, l'inspirateur des mouvements qu'ils vont appeler la négritude, c'est-à-dire que les humanités noires, c'est Maquet. Alors que Maquet n'a jamais entendu parler de la négritude, mais en tout cas, c'est la même réaction aussi de Aimé Césaire, donc c'est les deux pères des mouvements de la négritude, et il y a aussi un écho, il y a tout un écho de tous ces mouvements avec la Renaissance d'Harlem, qui a donné lieu aussi à une grande association, l'association de la protection des Noirs américains, avec William Du Bois. Donc c'est vraiment ces mouvements-là qui vont arriver jusqu'à pratiquement les années 60. Maquet, il y est pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il a fait partie de ces mouvements. Il est même un des membres fondateurs de la Renaissance d'Harlem. Et pour arriver avec des écrivains comme James Baldwin, qui a vécu ici en Provence aussi, qui est aussi un des écrivains qui a beaucoup lutté pour la liberté des Noirs, mais aussi liberté homosexuelle, parce que James Baldwin était homosexuel. Et dans la société américaine de l'époque, vous imaginez bien quelqu'un qui puisse écrire sur l'homosexualité comme l'a fait James Baldwin, c'était quand même quelque chose. Voilà, l'esprit de Claude Maquet, on l'oublie, mais en tout cas, Maquet, il y est quand même pour pas mal de mouvements, aussi bien artistiques, au travers de ces mouvements, en tout cas, la Renaissance d'Harlem. Et la Renaissance d'Harlem, encore aujourd'hui, n'est pas terminée, l'influence, en fait. Il a influencé les musiciens parce qu'il est poète. Et puis Ray, alias Banjo, c'est quelqu'un aussi qui avait envie de faire découvrir la grande musique noire américaine à Marseille. C'est quand même un investissement total de ce bonhomme qui passe sa vie à vouloir créer un groupe, de trouver un groupe. Et on a aussi des photos de Mackay qui fait des photos de groupes de jazz à l'époque. Le jazz, ce n'était pas encore le mot dans les années 20 en tout cas, parce que c'est plus le front de ragtime. Faire du jazz, c'était plus l'ambiance qui est vraiment une musique, quoi. Et faire du jazz, c'est vraiment ambiancé, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et Mackay, au travers Banjo, justement, il fait découvrir ces musiques-là. Et justement, c'est pour cette raison que beaucoup de citations, de titres qu'il cite dans son livre, ils ont bel et bien existé. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ont acheté le livre, le premier, comme moi, il y a eu une compilation de 20 titres, la musique du livre Banjo. Hélas, il est épuisé, cette compilation, mais j'ai plutôt dans l'idée de les rééditer, cette compilation, parce que je pense qu'elle est vraiment très intéressante pour comprendre aussi quels sons on écoutait à l'époque ici à Marseille, et à côté justement de l'Alcazar, qui était la plus grande salle café-concert de l'Europe. Je ne sais pas si Mackay avait fréquenté l'Alcazar, mais ça ne m'étonnerait pas.
Donne rendez-vous aux auditeurs ce samedi à l'Alcazar pour une après-midi spéciale Maquet, qui est un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça, un avant-goût d'un projet que tu vas monter pour 2008.
Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi 2008? D'abord parce qu'il est mort en 1948, donc ça va faire 60 ans. Cette manifestation à l'Alcazar, il a deux objectifs. D'abord parce que entre dimanche, il va publier Back to Harlem, donc Retour à Harlem, cette année, donc il doit sortir ces jours-ci, et avec la réédition des banjos. Donc là, il y a ces deux livres qui sortent. Et en même temps, ça a été l'occasion aussi de présenter les projets Claude Maquet, qui va être réalisé l'année prochaine, avec une création musicale avec les groupes Mosuté et des musiciens américains. Pourquoi Mosuté? Parce que déjà, Tatou, qui est un des chevilles ouvrières de Mosuté, il a fait un album d'ailleurs, qui s'appelle Mademoiselle Marseille, c'était l'avant-dernier album, qu'il dédie à Claude Maquet et au personnage du roman Banjo. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est tombé, mais alors amoureux de Claude Maquet, en disant, mais tiens, un Jamaïcain, un Américain d'origine jamaïcaine qui s'intéresse aux Provençaux, c'est intéressant. Donc ça fait une ouverture vers la Provence, vers l'universel. Et donc d'ailleurs, il a plutôt le projet aussi fou de traduire Banjo en provençal. C'est pas mal ça.
J'aurais pu vivre au pôle Nord, du côté d'Aix ou d'Avignon. J'aurais pu vivre au pôle Sud, habiter Bandol ou Toulon. J'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo. Ouais, mais j'habite à La Ciotat, avec la mer et les bateaux. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, à La Ciotat. Sous la tente, dans une case ou un igloo, j'aurais pu parler le bulgare, le finnois, le chinois, l'ourdou, habiter dans l'Himalaya. Ah ouais, mais pour le ski, je suis pas chaud, alors j'habite à La Ciotat, le torse nu, les pieds dans l'eau. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, à La Ciotat, on fait ménage à trois. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, près du vieux port, on est comme des J'aurais pu aller à Paris, mais l'air n'y est pas vraiment bon. J'aurais pu partir sur une île, mais y a des gays, c'est un peu con. J'aurais pu vivre à Saint-Cana, être le berger d'un troupeau. Ouais, mais j'habite à La Ciotat, avec la mer et les bateaux. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, à La Ciotat, on fait ménage à trois. Ma pitchounette, we'll be right back.
Ciotat.
À la Ciotat.
Alors juste pour terminer, tu peux nous préciser un peu tout le programme de samedi?
On commence à 16h30 avec la projection d'un film, Big Fela. Pourquoi Big Fela? Parce qu'en fait, Big Fela, c'est un film qui est inspiré du roman Banjo. En tout cas, un peu de loin quand même, il faut dire. C'est un film de Elder Wills, qui est un réalisateur britannique. Et j'ai cherché le film, introuvable en France, et finalement, je l'ai retrouvé aux États-Unis. Donc, ce film va être présenté, pour la première fois, ici à Marseille. Malheureusement, pour les gens qui ne parlent pas anglais, il est totalement en version originale et sans sous-titrage. Comme c'est une comédie musicale, on va quand même comprendre pas mal, c'est accessible à tous. Et ensuite, ce que le personnage central, c'est Paul Robeson, ce qui était une méga star de jazz dans les années 20, qui était un ami de Claude Maquet, qui a vécu aussi à la Riviera, ici à dans le sud de la France, qui venait très souvent ici à Marseille pour s'encanailler avec Claude Maquet, et avec Elizabeth Welch, qui était aussi une grande star de la musique. C'est un très beau duo de musiciens et qui se retrouve dans ce film assez drôle. Bon, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, on a de très belles images de la fosse, justement, de Marseille, de 1937, le film. Voilà, et après ce film, on présentera un extrait d'une chanson inspirée par Banjo, donc avec Guylaine Renaud, qui est une troubadour marseillaise qu'on connaît tous. Et ensuite, il y a une discussion sur Claude Maquet avec André Dimanche, donc qui est l'éditeur, et Jocelyne Rotilly, écrivain, qui a écrit un livre tout récemment, au sud de l'Éden, les Américains dans le sud de au sud de la France, donc qui sera là aussi pour présenter Maquet, et Hassan Soulé, qui est aussi écrivain, et moi-même qui vais présenter justement les projets. Donc voilà, et cette soirée est ouverte, entrée libre, donc à l'Alcazar, à la bibliothèque L'Alcazar. Pour avoir les informations, c'est au 04 91 62 78 57 ou alors sur les sites de Cocotte Musique, www.cocottemusique.org.
Merci beaucoup, Armando.
À toi, merci.
C'était Armando Cox, directeur du projet Claude Maquet 2008.
Now down in Georgia, they got a dance that sings. It ain't nothing to it, it's easy to do. They call it Shake That Thing. Oh, Shake That Thing. I'm getting sick inside of me.